L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
T'as besoin de plus d'espace, de puissance et de capacité de chargement? L'étoile Dodge Chrysler de Jonquière t'offre 20% de rabais sur le PDSF du Ram 1500 Classic 2023. Je le répète, on enlève 20%. Ce sont des conditions à l'achat jamais vues dans les trois dernières années. C'est l'occasion parfaite pour passer au Ram 1500 Classic. L'étoile Dodge Chrysler.
Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
Bienvenue dans le vestiaire, édition du lundi 22 avril 2024. Michel Tifot, bienvenue.
Bienvenue. C'est le début du 51e Cash Peel de Curling.
C'est vrai.
Ça commence aujourd'hui, on en discute tantôt.
Tournoi d'envergure, quand même tournoi important ici. Là.
C'est le tournoi le plus important.
Oui, oui.
Demain, c'est le bilan. Normalement, lundi, on discute avec Yannick Jean, mais ça va là demain.
Ça va là demain.
Parce que demain matin, c'est le bilan de saison des Saguenay-Chicoutimi. J'ai le goût de te demander, Dominique, qu'est-ce que tu en penses de la saison des Saguenay?
Intéressante. Intéressante, puisque on a eu droit à une belle progression des jeunes. Les jeunes 16 ans là, qui sont entrés, les quatre choix de première ronde qu'on a eu, là, on pense à Prudhomme, on pense à Wang, on pense à Lecomte également, à Guité. Ces gars-là sont bourrés de talent, véritablement. Et la progression des Desruisseaux, la découverte de Précourt devant le filet, on a fait une transaction pour aller chercher également De La Fontaine. Il y avait peut-être un petit point d'interrogation sur Maxime Massé en début d'année. Mais il a connu une bonne fin de saison et c'est positif pour l'avenir. L'avenir est intéressant du côté des 16.
Les deux prochaines saisons, ça devrait, oui. Ça devrait vraiment être formidable. J'ai hâte de voir quelles seront les priorités de Yannick Jean.
Mm.
Un au repêchage, mais deux, oui. Il va sûrement aller chercher du renfort. Là.
Ben, ce serait intéressant de mettre à jour qu'est-ce qu'on a dans la banque de repêchage pour les deux prochaines années et qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est sûr qu'on va tenter de bouger, là. C'est sûr et certain.
En parlant d'échange, suite aux résultats des matchs de la fin de semaine dans la Ligue nationale de hockey,
mm-hmm.
J'en aurais une proposition, une suggestion d'échange.
Ah oui? Vas-y.
Boston, Avalanche. Le problème de l'Avalanche, on l'a vu hier, ils n'ont pas de goaler.
Ouais.
Ils ont accordé 7 buts.
Sur 22 lancés.
Sur 22 lancés. Georgiev. Colorado, une grosse attaque. Moi, ce que je suggérerais, si je suis c'est Joe Sakic, qui est le directeur général.
Oui.
Je cogne à la porte de Boston.
En fait, il est rendu président, mais en tout cas.
Peu importe. Chez l'Avalanche du Colorado, on cogne à la porte de Boston, qui ont deux bons gardiens de but.
Oui.
Je dis à Boston. Non, deux. T'en gardes un.
Oui, tu fais un choix.
Puis tu vas te chercher un top 6 en attaque au Colorado.
Ben, c'est sûr.
Moi, ce serait ma suggestion, là. Parce que Colorado, ils ont besoin d'un bon gardien de but.
Oui.
Tu sais, Georgiev, il n'a pas fait la job hier.
Non.
Puis, je suis pas certain qu'ils vont gagner la finale de la Coupe Stanley. Ça prend un bon. Je comprends qu'ils ont de l'attaque. Ils sont bourrés de l'attaque. Ils ont des. Kyle McCarr, ils ont probablement. Pas le probablement. Ils ont le meilleur défenseur de la ligue, mais il y a un point d'interrogation dans le filet.
Oui.
Moi, j'irais chercher un gardien de but à Boston, quitte à donner un choix de repêchage pour un top 6. Puis Boston, t'amènes un top 6, là. Ben Boston, ils n'ont pas de mauvaise équipe. Tu lui ramènes un bon marqueur du Colorado.
Absolument, ça ne nuit pas.
Je vais en parler avec Gaston Therrien vendredi, mais j'écoutais un match en fin de semaine, là. D'abord, Boston, ils ont carrément surpris Toronto.
Boston, c'est Boston.
Boston, c'est Boston.
Puis Toronto, ben c'est Toronto.
Toronto, c'est Toronto.
On n'a pas vu les grosses vedettes. Là, il y a un gros point d'interrogation sur la situation de William Nylander.
Ouais.
Il explique comment ça que ce gars-là, il a joué toute la saison complète, puis premier match des séries, il est pas là. Ça se peut une blessure au dernier match de la saison, ben il traîne une blessure, mais là, t'arrives en série aux choses sérieuses.
T'en as besoin, là.
T'en as besoin. Est-ce qu'il aurait pu peut-être arrêter de jouer avant la fin de la saison,
question
de
se reposer
pour les séries? Je ne sais pas comment on a formulé ça du côté de Toronto, mais il y a un gros point d'interrogation.
Penses-tu que Toronto Va être capable de passer au travers de Boston.
Non, non. Moi, je penserai pas. Non, oublie ça. Pas de la manière qu'on jouait.
Ah, puis tu sais, Boston, c'est 5 à 1. Ils ont 3 poteaux au travers de ça, là.
Puis tu parles de Boston, là. Écoute, même Toronto, là. Le gardien, là, qui t'envoie dans le filet demain. Moi, je m'excuse, mais Samsonov a été horrible.
Il était lamentable.
Puis que ce soit Joseph Wall, que ce soit Martin Jones, je m'excuse, là. C'est pas avec ces gardiens-là que Toronto va gagner quoi que ce soit.
Tu gagnes une coupe avec un bon gardien de but, absolument.
Voilà, normalement. 90-95% du temps, si tu gagnes...
C'est les Flyers de Philadelphie avec Bernard Parent, ils ont gagné la Coupe Stanley.
Canadien avec Patrick Roy, l'Avalanche avec Patrick Roy, il l'avait. Les Devils, Martin Brodeur.
Mais exact.
C'est comme ça.
Ça prend un bon gardien de but. Alors, Boston en a deux. Moi, j'en cède un Colorado. Là, Colorado réglerait son problème de gardien de but. Ils sont capables de se passer d'un bon attaquant, là.
Puis Boston, capable d'aller chercher, par exemple, un Nichushkin ou une affaire comme ça. Puis
mais moi, si je suis Boston, problème. Je demande plus qu'un top 6. Ben je demande, oui, ben un, oui. demande un choix de repêchage.
C'est sûr.
Avec ça, là.
C'est sûr.
Les Rangers contre Washington, moi, je pense que ça va être une formalité.
Ouais, les Rangers sont beaucoup trop forts. Washington se bat bien, mais
ouais.
Les Rangers sont trop forts. Puis en plus, là, imagine, c'est Catherine
Trio. C'est Catherine Trio qui a fait les points hier. Puis, t'as vu hier le comment que c'est, j'oublie tout le temps son nom, le gros et grand, le 6 pieds 8. Là.
Matt Rempe.
Rempe.
Capable de jouer au hockey.
Ce matin, je parlais avec un auditeur. Oui, capable. Pas monsieur hockey, là, non, mais non, capable mais, de jouer au hockey. Puis là, je me disais, ça prend un gars de même, surtout dans les séries, parce que dans les séries, là, le style de jeu, il change.
Ben, tu l'as vu, le match entre l'Avalanche et les Jets?
Ah oui, ça a brassé, puis ça prend un homme fort, puis si tu en as deux, tant mieux. Puis si l'homme fort se joue au hockey, tant mieux.
Tant mieux.
Puis tu sais, Canadiens ont rebâti. Puis tu sais, les Canadiens, Dominique, on les a analysés tous les ans. Oh. D'un but à défense, en avant, homme fort, pas homme fort. Sont petits, sont vite, mais sont petits. Ben, Dominique, je peux t'en nommer quatre, c'est des ticus, là.
Oui,
Carl
oui.
Phil, mais... Raphaël Harvey Pinard.
Oui, 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 je
c'est
sais.
C'est des ticus, là.
Parce que dans chaque équipe, il y en a aussi.
Ben oui, je sais. J'ai tout compris ça, Dominique. Mais les Canadiens, ils les ont petits, là. Ça te prend un homme fort. C'est pour ça qu'un gars comme Jekai... Mais y a-tu de la place pour Jekai à défense?
Ben, il faut que tu en fasses.
Ou tu tasses Petit-Tot de la quatrième ligne, puis t'embarques Jekai. Un gars comme Jekai, Dominique, c'est l'un des hommes les plus forts de la ligue, là. Il a peur de personne. Il sait jouer au hockey. Il a un bon lancer. Je te dis pas que c'est le meilleur allié de la ligue.
Non,
ça serait le meilleur allié de la ligue. Puis sur une quatrième ligne, il sera pas pire que Petit-Tot. Puis comme homme fort, ben, il est d'un calibre supérieur à Petit-Tot, là.
Oh, oui, ben oui.
Puis un bon lancer, tu l'as vu à défense. Il a un bon lancer, il est capable. Et même en avantage numérique, t'embarques Jekai devant en avant du filet, là.
Ouais, c'est
tu dis, fais le comme Rempe. Hey, Rempe devant le filet, ils ont-tu de la misère à le tasser?
Ben, 6 pieds 8, oui.
6 pieds 8, il est en train de tasser, là. On a quelqu'un au téléphone. Dans le vestiaire, bonjour.
Oui. Hey, le frère à Jekai, c'est un roi d'avant, ça?
Oui, c'est un attaquant. Ouais. Floride, c'est un attaquant.
Il aime ça, là, chez Mitaine aussi?
Apparemment qu'il aime ça aussi, oui.
Fait qu'on peut le monter tranquillement. De toute façon, on va en avoir besoin juste dans 3 ans, pareil.
Une possibilité.
Parce que les deux frères ensemble, un défense et un l'avant, je pense que ça pourrait faire respecter un petit peu l'équipe.
Mais c'est ce que je disais à Dominique, M. Jekai, il va-tu avoir sa place dans le top 6 des défenseurs?
Ben,
c'est bon.
Ben, tu n'as-tu besoin d'un défense?
Ben, c'est ça.
À la madinette, des fois, Jekai, à la madinette, ça fait peut-être reculer du monde de temps en temps.
Ouais,
c'est ce que je viens de dire. Moi, Jekai, je la boxe à la quatrième ligne à la place de Petit-Tot.
Moi, je laisse à défense, justement, pour tasser en avant du filet.
Ou encore, Dominique.
Parce qu'il y a une chose que je m'aperçois, puis, tu sais, bon, il est bien bon, puis j'ai un point d'interrogation sur Kayden Gourlay. Il n'a pas encore fini l'année, là. Il est-tu fragile, ouais, ce gars-là? Ouais, il est grand, il est gros. C'est pas le plus physique, mais. T'as besoin d'un gros gars en défensive, puis moi, je pense que Jekai a sa place en défensive. Que ce soit sixième défenseur, il a sa place.
C'est pas un intouchable, mais il faut y penser à ma défense.
Faut y penser. Oh oui, absolument.
Il changeait qui, là?
Jekai?
Mais non, t'échanges pas Jekai, monsieur! Tu n'échanges pas. C'est
pas un
intouchable,
mais il faut y réfléchir. Il faut réfléchir. Faut réfléchir vraiment.
Oui. Ah, ben là, monsieur, s'il y a une équipe qui est prête à donner beaucoup pour Jekai, c'est qu'il y a une belle valeur. On l'a, oui. On le garde. Moi, dans mon livre à moi, là, quand t'as une valeur sûre...
Le Canadien fait pas ça, garde. Monahan, on l'avait, on l'a pas gardé.
C'est peut-être une erreur qu'on a faite aussi, Dominique.
Toffoli, on l'avait, on l'a pas
c'est
gardé.
C'est peut-être une autre erreur qu'on a faite.
Quand
t'as un bon gars... Moi, là, c'est un slogan de politique. J'avais fait une publicité il y a plusieurs années pour un homme politique qui s'appelait C.A. Gauthier. Et son slogan, c'était « On l'a, on le garde ». J'ai toujours retenu cette phrase-là. « Jekai, on l'a, on le garde ».
Ça va être un beau problème.
Oui, absolument.
Beau problème. Puis Dominique a raison. Sean Monahan, on l'avait, mais on ne l'a pas gardé.
Oui, mais il peut revenir.
Il pourrait revenir.
Ouais,
ouais,
de quelle façon? Oui, oui.
Joueur autonome. Ouais. À suivre.
Merci.
Merci beaucoup. La bataille de la Floride, ça a été serré hier.
Ça a été serré. Écoute, il y a eu quoi? Je pense 110 mises en échec dans tout ce match-là. Des coups d'épaule, ça s'est donné de part et d'autre. De ce qu'on voit, les Panthers semble avoir la formation capable de... Ça va être une série qui va être longue. Ah, oui. Le Lightning a pas lâché jusqu'à la fin. Ils ont marqué un but. Il restait 10 secondes pour faire 3-2. Moi, je pense aux chances du des Panthers. Lightning, c'est une équipe un peu plus vieillissante. Puis si les Panthers jouent du coup d'épaule comme ça, il n'y aura pas grande équipe capable de les arrêter.
Ouais. Puis tu sais, dans les séries, Dominique, le jeu il devient doublement physique.
Ah, c'est incroyable.
Puis là, je regardais le nouveau, là, pas Mayu, l'autre, Lane Hudson. Mm-hmm. Il est pas gros, Lane Hudson.
Non, il est tout petit.
Ça va prendre une couple de gros pour le défendre. Ouais. Des Jekai, puis des Mayu, là, 6 pieds 3. Là.
Pour leur faire de la place.
Puis Caulfield, il est pas gros. Puis Raphaël Harvey-Pinard, s'il continue à jouer au Canadien, il est pas gros non plus. Puis on a une équipe qui... T'arrives en série contre une formation qui a des épaules un peu. Puis qui décide de brasser, tu te fais sortir.
Regarde, Kyle McCarr, c'est pas le plus gros, il est à 185 livres, il fait sa place.
Samuel Girard, il est gros.
Samuel, il est pas gros non plus, ils font leur place.
Ils font leur place, mais quand tu donnes un gros... Tu sais, Rempe à New York, c'est le joueur le plus populaire, un des joueurs les plus populaires.
Tu parles de petit joueur, là, Brad Marchand, là. Il est pas gros, là, à 5 pieds 9, là.
Ouais.
Mais il va dans le trafic, il va sonner dans le trafic.
Ouais. Mais Caulfield, il va pas dans le trafic, puis Lane Hudson, il sera pas là pour aller dans le trafic. On va laisser ça à Mayu. À 6 pieds 3, il va être capable de se défendre un petit peu.
Mais ça te prend un mélange des deux.
Ça prend un mélange des deux. Je suis d'accord, mais ça t'en prend. Des gros. Oui. On n'a pas. Le seul qui est capable de faire la job, c'est Jekai.
Ouais, mais à l'attaque, Mayu, t'as peu, là. Slavkovski, là, il est gros.
Ouais, mais es-tu là pour brasser, lui, là? Il est-tu là
pour
se
battre? De donner des coups d'épaule au besoin.
Mais mieux que Jekai qui jette les gants que Slavkovski, là. Slavkovski, il est pas peureux, il est capable de donner un coup d'épaule. Il n'est pas là pour se battre. Là. Si Slavkovski se bat une fois ou trois, quatre games, on a un Christy de problème.
Non, il n'est pas là pour se battre. Mais non, mais de toute façon, des bagarres, il n'y en a pas.
Dis, Dominique, c'est pas tu me dis, on a Slavkovski.
Oui, mais ça, tu dis en avant, on n'a rien pour brasser. Capable de donner des dépôts, Slavkovski. Ben,
quand je dis brasser, là, c'est jeter Bitten aussi. Là.
Ouais, mais on calculera combien il y a eu de bagarres à la fin des séries.
Oui.
Ils n'auront pas eu gros.
Ils
n'auront pas eu gros.
Pas fini quand ça se met.
Comme en saison, il y a eu combien de bagarres? Il n'en a pas eu gros.
Ouais.
T'as besoin
mais
d'en avoir
ça
un.
Ça en prend juste une bagarre pour changer la game.
Je sais. Mais on calculera à la fin des séries.
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je reviens à ma bataille de la Floride. Qui va gagner ça?
Bon, Panthers. Mais ça va être une série quand même assez longue. Peut-être en 6.
OK. Il nous reste 2 minutes avant la pause. Bon, jase de curling du cash pile dans un instant. Les Marquis se sont fait éliminer en 6. C'est pas une surprise parce que Thetford,
une très bonne formation.
Très bonne formation. Très, très bonne formation. Là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en finale contre Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup qui a surpris Laval.
Ah oui.
Puis, c'est sûr que les partisans, il y avait 2600 quelques personnes vendredi soir. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui étaient déçus. Mais on a eu droit à une bonne saison, on a une bonne équipe. Il y a de l'ambiance au Palais des Sports. Il faut que ça continue. Il y a du travail à faire. C'est dur d'arriver à la fin et de dire on avait une meilleure équipe, on a gagné le championnat de la saison régulière.
Puis je pense que
on a gagné série.
L'été sera pas facile pour les Marquis et pour les autres formations. S'il y a véritablement deux nouvelles formations qui s'ajoutent, tu vas en perdre des joueurs. Mais tu vas en accueillir des nouveaux. Ça va ouvrir la porte à de nouveaux joueurs. Puis je pense que ça va redonner un nouveau souffle à cette ligue-là. Puis il va falloir bien travailler dans chacune des formations pour présenter la meilleure équipe possible.
Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a une couple de joueurs de la région.
Ben,
tu sais,
Simon-Claude
Blackburn, on le connaissait pas, lui, il y a une couple d'années.
Puis Marc-André Terrien, puis tu sais, un petit gars de Tadoussac, des gars de même, t'en as besoin.
Puis Simon-Claude Blackburn, c'est l'un des meilleurs. C'était le meilleur compteur de l'équipe dans la saison.
En saison, en série.
Puis dans la série aussi. T'as un petit gars de Jonquière, qui a joué un petit peu junior majeur.
Il a passé par le plus grand chemin, là, c'est junior 2A, senior, puis tout ça.
Puis c'est pas un gars de 6 pieds 3, là.
Non, il est tout petit.
Tout petit.
Mais il a fait sa place.
Il est scoreur. Puis il fait des belles passes. Puis il est bon. Puis c'est un gars de Jonquière. Ça en prend d'autres, des gars de même. On a quelqu'un au téléphone dans le vestiaire. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui.
Hey, pour les Marquis, là, que vous parlez, là, quand on a un homme fort qui est bon, qui sait jouer au hockey, qui cogne un peu, là, on aurait pu faire jouer Bordelot.
Non.
Non, il n'y a pas de nom. Il sait jouer au hockey, là.
Non, il ne sait pas suivre. L'avais-tu vu cette année? Il y a de la misère avant. Ça patine rendu en série. Et Bordelot n'a plus le coup de patin qu'il avait lors de ses belles années.
Ah, moi, là, je suis pas d'accord avec ça.
Ben, on pourrait en discuter, là, mais moi, non. Personnellement, Bordelot, dans l'alignement de fin, là, il n'y avait pas sa place. Ben du respect pour ce gars-là, mais malheureusement, il n'y a pas sa place. Tout comme Brashear.
On a trop de petits joueurs. Hey, on se fait ramasser. On n'est pas allé dans un coin. Les gros, on n'en a quasiment pas.
Ben là,
avez-vous ben, on a une coupe, là, mais les joueurs, c'est pas tous des joueurs pour cogner, là.
Non, puis l'autre bord non plus. C'est pas tous des joueurs pour cogner. C'est chacun leur style.
Ils sont pas mal plus gros que nous autres. Ils étaient pas mal plus gros que nous autres, là.
Moi, personnellement, côté coup d'épaule, j'ai pas vu l'assurancia donner ben de coup d'épaule. Jouer le long de la rampe, par exemple, des 1 contre 1, ils sont meilleurs que nous. Mais pour ce qui est des coups d'épaule.
Aussi.
Oui, c'est ça. Mais Bordelot, c'est pas lui qui va rajouter de la vitesse dans l'équipe, là, on le dit tout de suite. Là.
Non, mais il aurait pu mettre un peu de robustesse, là, puis cogner, là. Puis...
Oui, c'est parce que Bordelot, quand il cogne, ça coûte 2 minutes ou 5 minutes.
Ah, pas tout le
c'est
temps.
C'est ça le problème.
En tout cas, c'est beau.
Merci beaucoup, monsieur. Notre invité tantôt.
Le joueur intense qui a été des séries, c'est Pierre-Cédric Labrie. Le gars-là, c'est joué au hockey, c'est donné des coups d'épaule, puis ça paraissait quand il était dans l'alignement. Mais l'assurancia, c'est un tout. T'sais, les Marquis, ils ne manquaient pas grand-chose. Là. Regardez, le 5e match, menait 4-1. C'est une question de petites choses. Puis les petites choses, on ne les a pas faites. Puis les petites choses, l'assurance l'a fait. Puis qu'est-ce que ça a fait en sorte? C'est qu'ils ont gagné.
Notre ancien joueur des Saguenayens ce soir, quelqu'un qu'on connaît bien.
Oui, Jean Beau.
Jean Beau, ancien joueur des Sags. Je pense qu'il a joué à Shawinigan un petit peu aussi dans
oui,
le junior-major.
Oui.
Il a joué avec les Condors, il a joué avec les Marquis. Mm-hmm. Il est dans le sport scolaire aujourd'hui. Ancien joueur des Sags, un gars de la place, qui sera notre invité à 16h avec Yves Bolduc. Mais dans un moment, 51e Cash Pillar Curling. Ça débute aujourd'hui.
Arrêt de jeu. Oh! Retour dans le vestiaire dans quelques minutes. Derrière-le-volant.net. Passez une heure dans le monde automobile avec Jacques Deshaies et ses collaborateurs. Derrière-le-volant.net. Cliquez « J'aime » sur Facebook.
Ici Jacques Deshaies, je vous donne rendez-vous bien sûr à toutes les semaines pour l'émission Derrière le volant, de l'actualité, des essais et beaucoup de nouvelles. Tout ça à Derrière le volant.
Les samedis, 5h.
Bonjour, ici Jean-Marc Robitaille.
Salut, moi c'est Stéphanie Bellet.
Bonjour, ici Mario Vézina.
Ce sont nos représentants publicitaires du 92.5. Ils sont compétents et ils vous proposent des idées originales. Appelez au 418-546-2525, extension 107, pour rejoindre facilement Jean-Marc, Stéphanie ou Mario. C'est prouvé, une publicité au 92.5 vous gardera occupé parce que nos auditeurs sont fidèles.
Vous faites du camping? Le terrain de votre chalet est immense. Vous voulez vous déplacer sans vous ruiner? Les centres d'autonomie vous offrent maintenant des voiturettes de golf de marque Caro. 3 modèles disponibles, 4 à 6 places. Mag aux 4 roues, tout équipé pour moins cher qu'un côte-à-côte. Venez voir nos toutes nouvelles voiturettes de golf pour camping et chalet au centre d'autonomie. 690 rue des Actionnaires, Chicoutimi. 399 avenue de la Friche, Dolbeau-Mistassini. Avec les centres d'autonomie, la vie continue.
Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Hey, ce soir, il y a 4 parties dans la Ligue nationale. 2 nouvelles séries qui s'amorcent dans l'Ouest. Boston-Toronto, match numéro 2. Déjà, les Bruins mènent 1-0. Et les Islanders également contre les Hurricanes. Les Islanders, j'ai écouté la partie, ça, Dominique, là. On dit que les Hurricanes, si le gardien de but n'est pas là, ils se font battre, là.
Non, effectivement.
C'est Frédéric Anderson qui va la game.
Les Hurricanes, sérieusement, c'est une équipe plate.
Oui.
C'est plate à dire. C'est une bonne équipe, mais c'est la série la plus ennuyante. C'est parce que les Hurricanes sont là-dedans. Puis, tu sais, les Islanders, il va falloir qu'ils trouvent une solution, mais ça sera pas facile.
Puis, un bon gardien de but. Le 51e Cash Peel commence aujourd'hui. On en discute avec Pascal Girard. Pascal, bonjour.
Hey, bonjour, Michel. Bonjour, Dominique.
On parle d'une édition country pour le Cash Peel. Qu'est-ce que ça signifie pour les participants qui vont jouer le Cash Peel? Est-ce qu'on va jouer avec des chapeaux de cow-boy?
Jouer, je ne sais pas. Il y a sûrement des gens qui vont le faire.
OK.
On a un groupe country qui vient jouer samedi soir.
OK. Puis je pense, j'ai vu un peu la programmation. Et c'est une programmation carrément à caractère country.
Oui, complètement. Là, l'équipe a mis les efforts dans ce sens-là, oui.
Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une thématique comme ça au Cash Peel?
Non, il y a plusieurs années qu'on fait des thématiques. Cette année, ben, les gens qui organisaient voulaient revenir avec une thématique parce que l'an passé, on avait laissé ça de côté un petit peu. Fait que cette année, on revient avec... c'est normalement, là, nos gens du curling, ils aiment bien cette thématique-là.
Et ouais, mais d'où vient, qui a eu l'idée du country? Parce que le country, c'est populaire. Nous autres ici,
très populaire.
À la radio, c'est ce qui fait l'un de nos succès, là, avec le bingo, mais le country est très, très populaire. C'est qui a eu l'idée du western, du country?
C'est l'idée d'Anthony, là, le okay. Vice-président, futur président du tournoi. Là.
OK. Et parle-nous un petit peu de cette programmation spéciale. Il y a un groupe country, mais quelles sont les autres activités à caractère western?
Caractère western, on a le groupe. Après ça, on a notre souper annuel qu'on fait toutes les années, là, le vendredi soir, avec un DJ un petit peu plus standard. Après ça, le samedi, c'est vraiment plus country pas mal toute la journée. Là.
Combien de joueurs? T'sais, c'est un tournoi important, c'est plus de 60. Oui, hein, c'est beaucoup de monde. Hein?
Oui, 64 équipes. On a 256 joueurs qui vont venir sur nous. Peut-être même un petit peu plus. Il y a des équipes qui viennent à 5. Fait que, on a encore réussi cette année à encore remplir à 64 équipes. On en est très fiers.
Les bourses sont intéressantes, ce qui fait que vous n'avez pas de difficulté à remplir vos inscriptions.
Oui, je pense qu'on a on a une très bonne recette. Oui, on a des bourses intéressantes, mais on n'a pas seulement ça. C'est justement là, avec le fait qu'on a une activité country, que c'est un gros party de fin d'année pour tous les curleurs. Il n'y a pas juste les bourses en... C'est toute la réception au club de curling Kanagami, tous les efforts qui sont mis dans le sens qu'il n'y a pas juste les gagnants qui gagnent de l'argent, mais on fait vraiment un beau party pour tous les gens du curling.
Et êtes-vous de retour sur le circuit provincial pour le Cash Peel?
Oui.
Oui?
Oui, cette année, le Cash Peel revient sur le circuit provincial. C'est ce qui fait qu'on a réussi à booker nos 64 équipes. Il y a des équipes qui viennent ici pour le circuit, qui viennent chercher leurs points. Fait qu'on a réussi à faire un beau mélange dans tout ça.
C'est-tu une grosse organisation, le Cash Peel de curling à Quédon?
Oui, c'est quand même une grosse organisation. Il ne faut pas oublier que c'est le deuxième plus gros tournoi au Québec. C'est le plus gros tournoi qui se déroule dans un club seul. Fait que oui, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de bénévoles. Puis c'est des gens de glace qui sont là. Ça joue jusqu'à... Il y a des départs de glace jusqu'à 11h30 le soir.
Oui, ben c'est un party aussi en même temps. Même si les joueurs prennent ça au sérieux, là, on veut gagner, c'est un beau party, là.
Oui, c'est ça. C'est un gros party. Fait, c'est sûr que oui, les gens qui sont encore... quand les gens sont encore dedans, ils prennent ça plus au sérieux, mais... ceux qui se font éliminer, ben justement, là, c'est un gros party pour tout le monde.
Ouais, des activités qui dépassent 50 ans, ça m'impressionne. Le tournoi Pee-Wee Jonquière, Dominique, on est rendu quoi? 58 ans, 59 ans?
Ouais, à peu
ans,
près, ouais, on approche de la 60e.
Tu sais, le Cash Peel, 51e année, je me pose toujours la question, après plus de 50 ans, c'est difficile de trouver des bénévoles?
Les bénévoles, non. Au club de Curling Kanagami, je te dirais que... les gens du club, là, ils veulent, ben, la plupart veulent faire partie de l'organisation. La plupart veulent nous aider puis mettre la main à la roue. Puis je pense que c'est ce qui fait un succès d'un beau tournoi comme ça.
Le centenaire, ça fait 100 ans et plus, là, le club de curling de Kanagami. Puis il y a eu des rénovations dans les deux dernières années. Les curlers savourent-ils les rénovations qui ont été faites, les salles de bain, les vestiaires? Vous avez une nouvelle salle de réception? Les curleurs sont fiers de leur club?
Ben, c'est sûr que c'est des belles rénovations qui ont été faites pour le club. C'est pas juste un coup de pinceau. Là. Ils ont vraiment changé comme tu disais, là, les toilettes ont été changées de place. Ça a vraiment fait un beau vent de fraîcheur pour le club de curling. Pour les gros événements, ben, c'est sûr que nous autres, ça nous aide. Ça nous fait ben, c'est pas une plus grande salle, mais une salle plus adaptée à nos activités standards et à nos activités de club.
Là, ça commence ce soir, le tournoi, à quelle heure? Puis,
Oui, ce soir, 18h30, les premières équipes de la région rentrent en jeu. Ce soir, il y a deux départs, hein, 16h30, à 18h30 puis un à 20h30. Demain, la même chose. Mercredi, la même chose. Puis jeudi, les équipes extérieures commencent à 14h30.
Les équipes extérieures, ça vient d'où?
Écoute, on en a de partout. Là. On en a de Sept-Îles, on en a de... Écoute, ça, c'est tout le Québec au complet. On part de Sept-Îles, puis on va jusqu'en Outaouais.
Jusqu'en Outaouais.
Oui, on a même du Val-d'Or cette année.
Oh. On a même du Val-d'Or, ben bravo. Wow. Et ouais, votre grosse activité, le country, là, pour les gens qui aiment le country, qui ne jouent pas au curling, ils peuvent-tu y aller?
Mais bien sûr, tout le monde est le bienvenu, puis n'importe quel spectateur qui veut venir, qui veut juste venir le faire. Juste venir savourer notre groupe, il n'y a pas de problème.
Ben, c'est quand, ben, à quelle heure? Parce que les gens ici aiment et adorent le country au 92.5.
Oui. Si je vais de mémoire, là, si je me rappelle bien, c'est à partir de 20h, le groupe, samedi soir.
Samedi soir. Et le groupe s'appelle comment?
Là, c'est
même... Là, OK. En tout cas, c'est un groupe country.
Hey,
Pascal, merci beaucoup. Hey, bon tournoi, bon cash peel.
Parfait, merci beaucoup.
Alors,
merci.
Samedi soir, les amateurs de country... Au club de curling de Kitugami, on n'a pas souvent des spectacles country avec un groupe vraiment country, là. Caro Laurando, donne-tu encore des spectacles?
Ben oui, absolument.
Es-tu encore dans la région, elle, Caro Laurando?
Oui, je pense que oui, mais ouais. Ça se promène un peu partout au Québec, là, sûr. Okay. Mais je pense qu'elle est encore domiciliée ici.
Puis il y en a plusieurs, des chanteurs, ben, des oui, chanteuses ici dans la région.
Absolument.
L'une des meilleures, c'est Guylaine Tanguay, là.
Ouais. Oh oui, absolument.
Ben, je dirais que c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est l'une des meilleures.
Oh, à ce moment-là, c'est
une fille du lac, ça?
Fille de Girardville.
Fille de Girardville. Alors, ce soir, il y a 4 parties dans la Ligue nationale de hockey. Les Jays ont échappé le balayage. En fait, semaine contre San Diego, ils avaient gagné 2. Ils ont perdu dimanche, hier. Là, on commence une nouvelle série. C'est Kansas City. C'est ça? C'est-tu Kansas City?
C'est-tu les Royals?
Ah, d'après moi, dis ça. J'ai mon horaire pas bien loin. Les Blue Jays commencent une nouvelle série.
Oui, contre les Royals ce soir. C'est Yusei Kikuchi qui sera le lanceur partant. C'est une série de 4 matchs. Ouais. On aura Gausman, Yariel Rodriguez et José Berríos, les autres lanceurs.
Puis les Dodgers, c'est un début de saison. Ils ont gagné 10-0 hier, mais ils jouent 2 parties au-dessus de saison.
Ouais,
ouais. Je m'attendais à mieux. Il y a plus.
Absolument.
OK, on s'arrête pour quelques messages. Dans un instant, un de nos anciens joueurs des Saguenay-Chicoutimi, Jean Hébeau.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5, ma radio d'ici.
L'émission Dans le vestiaire sera présente au Salon Quai Le Dallo, vendredi 26 avril à 15h30, dans le cadre du Challenge printanier, qui aura lieu pour une seconde fois ici à Saguenay, les 20, 26, 27 et 28 avril. 288 skieurs en provenance du Québec, de l'Alberta, de l'Ontario et du nord des États-Unis se disputeront les honneurs du Challenge. Une invitation toute spéciale est faite à tous les spectateurs pour voir évoluer tous ces skieurs de haut calibre. Le Challenger printanier du Salon Quai Le Dallo de Chicoutimi, les 20, 26, 27 et 28 avril. Un événement à ne pas manquer. Un merci spécial à Promotion Saguenay et aux différents paliers gouvernementaux et municipaux pour leur support.
Les lundis à 8h30 à l'émission Réveillez-vous, on parle avec Charles Tanguay de l'Office de protection du consommateur. Comment bien consommer? Comment éviter les fraudes? Quels sont les meilleurs produits sur le marché? Plein de sujets reliés à la consommation à ne pas manquer avec Charles Tanguay de l'Office de protection du consommateur. Les lundis 8h30 à Réveillez-vous au 92.5, ma radio d'ici.
Quand il s'agit de propane, faut voir les pros. Centre de service Propane Gravel de Saint-Ambroise. Les experts en vérification, réparation et vente d'appareils au gaz propane. Bonbonne expirée, Propane Gravel peut la requalifier. Sécuritaire et économique, elle sera bonne pour encore 10 ans. Un problème de climatiseur dans votre VR? Nous sommes spécialisés en vente et réparation. Le réfrigérateur au propane du chalet ou du VR est défectueux? On peut le remettre à neuf. Centre de service Propane Gravel Saint-Ambroise. 672-4290, propanegravel.com.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
T'as besoin de plus d'espace, de puissance et de capacité de chargement? L'étoile Dodge Chrysler de Jonquière t'offre 20 % de rabais sur le PDSF du Ram 1500 Classique 2023. Je le répète, on enlève 20 % ce Sergers année. C'est l'occasion parfaite pour passer au Ram 1500 Classique. L'étoile Dodge Chrysler.
Avant de saluer nos amis, Dominique, il y a 2 ans, une journée comme aujourd'hui, nous quittait Guy Lafleur.
Eh oui, déjà. Ça va vite.
Un des 3 grands de l'histoire du Canadien. Maurice, Rocket Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. Puis après Guy Lafleur, 2-3 semaines après, un autre grand du hockey.
Une semaine après?
Mike Bossy.
Oui.
L'ancien numéro 22 des Islanders de New York. Il n'était pas vieux, au début de la 70,
ouais.
Pour Guy Lafleur. Les deux, c'est un cancer qu'ils ont emporté.
Malheureusement.
Yves Bolduc est avec nous pour nous présenter notre invité. Yves, bonjour.
Bon après-midi, les gars.
Notre invité aujourd'hui?
Ben, c'est un invité un peu de dernière minute, mais je tiens à le remercier parce que l'invité qu'on devait recevoir aujourd'hui il avait des plans de vol qui ont été changés. Alors, il est actuellement dans les airs, donc impossible pour lui de nous rejoindre. Mais c'était quelqu'un qu'on avait prévu dans les prochaines semaines, un joueur originaire de la région qui a été sélectionné en première ronde, le 3e au total par les Saguenayens en 1989. A connu une belle carrière dans la Ligue junior majeure du Québec, bien que son passage avec les Saguenayens a été d'un petit peu plus d'une saison. Et il est actuellement le directeur des opérations hockey du programme hockey du Bleu et Or de la polyvalente d'Arvida dans le réseau du sport étudiant du Québec. On accueille avec plaisir le joueur originaire de Jonquière, Jean Imbeau. Bon après-midi, Jean.
Bonjour.
Hey Jean, bonjour.
Bonjour.
Premier choix de repêchage, pas surprenant, parce que dans tout ton hockey mineur, dans l'hockey midget, on entendait parler de Jean Imbeau, qui est un bon marqueur, qui est un joueur de hockey étoile. C'est qui t'a amené ça là? C'est-tu tes parents qui t'ont amené au hockey plus jeune?
Quand j'étais jeune, je suivais mon frère. J'avais un frère plus vieux,
okay.
Stéphane, qui était 3 ans plus vieux que moi. Fait que je le suivais à ses entraînements le matin, là. Dans ce temps-là, on appelait ça le Scadia, nous autres, puis je voulais embarquer sur la glace. Fait que mon père, à un moment donné, il y a un entraîneur qui a dit à mon père m'a toujours compté cette histoire-là. Mais la prochaine fois, amenez-le, puis habillez-le. Fait que, ils m'ont habillé comme ça, puis j'avais 3 ans de plus jeune que mon frère, puis j'étais sur la même glace qu'eux autres.
OK. C'est qui,
à ce moment-là?
Dans tes premiers coups de patin, puis dans tes premières parties de hockey, c'est qui t'a aidé le plus à apprendre cette belle discipline?
Mon père m'a souvent dit que c'était Jean-Marie Villeneuve à ce moment-là qui s'occupait du hockey. Puis,
il s'en est occupé longtemps. Jean-Marie
Villeneuve. Il m'a coaché longtemps au baseball, Jean-Marie. Ouais. Là, fait que je me rappelle de lui.
Il écoute l'émission d'ailleurs. Je le croise des fois à ville puis il me dit tout le temps qu'il écoute l'émission. Puis, c'est vrai que Jean-Marie Villeneuve, il en a coaché plusieurs des joueurs de hockey.
Ouais. À ce moment-là, là, il était souvent là. J'ai eu Pierre Boudreau aussi qui m'a coaché longtemps au hockey mineur, là, qui est une personne que je me rappelle beaucoup. Je joue au hockey maintenant avec. Fait que c'est drôle. On parle de ça des fois quand je jouais à Tom et puis oui, même Midget 3, là, il était entraîneur adjoint à ce moment-là, que je côtoie encore régulièrement.
Et si on regarde du côté de ta carrière junior, quelle est la personne qui a exercé la plus grande influence pour toi?
Dans ma carrière junior au complet, je pense que c'est mon entraîneur à Shawinigan à ce moment-là, l'Alain Sancartier, que j'ai eu pendant quasiment 2 ans. Là. Fait que lui, quand je suis arrivé c'est Joe Hardy quand même qui était venu me chercher à Chicoutimi lors de mon échange de Chicoutimi vers Shawinigan. Mais Joe n'a pas terminé la saison cette année-là. Là. Il avait été remercié.
Hey, j'ai le goût de te demander, Jean, et Joe Hardy, il a été collaborateur ici, Dominique, 3-4 ans. Hein?
Oui.
Comment tu l'as trouvé comme homme? Moi, je le trouvais tellement fin, ce gars-là. Là.
Oui,
une bonne personne,
le fun à côtoyer. Un gars très volubile dans la chambre. Là, et, des fois, je me rappelle des speeches qu'il nous faisait, puis c'était vraiment drôle. Là. Il amenait ça toujours d'une façon comique, puis il réussissait à passer son message comme ça. Puis c'était un gars qui communiquait beaucoup. Il prenait le temps de nous rencontrer. Ça, j'avais apprécié ça de lui. Là, puis il m'a toujours parlé après aussi, des fois quand je le côtoyais, puis quand j'étais dans l'Ingénieur majeur du Québec. Puis j'ai toujours bien aimé rencontrer ce bonhomme-là.
Quel était ton surnom, Jean, avec les Saguenayens? Et qui étaient tes meilleurs amis?
Moi, j'ai fait une année complète. Là. Dans cette année-là, l'année complète que j'ai eue, souvent, on m'appelait Johnny. Là. C'était souvent le nom le plus facile. Ouais. Jean Johnny. Puis j'avais trois gars avec qui je me tenais un peu plus. Là, Patrick Bizarillon, que j'ai continué aussi à jouer avec lui là, à l'Université de Moncton. Éric Rochette, Martin Beaupré, là, que je garde des bons souvenirs de cette année-là, là, de ces gars-là.
Et depuis la fin de ta carrière de hockeyeur, là, est-ce que tu as revu des matchs de la LHGMQ? J'imagine que oui. Là. Puis quelle différence as-tu remarqué là, par rapport à il y a 30 ans? Là, parce que ça fait déjà 30 ans.
Ben, la vitesse du jeu, là, ça c'est évident. Surtout ça, la vitesse du jeu. Puis aujourd'hui, les jeunes travaillent plus leurs habiletés techniques, leurs habiletés individuelles. Fait que ça se reflète beaucoup. Là. Tu sais, quand on voit un match junior, comme je disais, c'est plus rapide, mais en plus, les jeunes sont plus habiles. Là. Ils prennent plus le temps. Nous autres, on tombait peut-être un petit peu trop rapidement dans le jeu collectif. Fait que c'est ce qui est. Puis dans le fond, je pense qu'on a appris ça un peu de l'Europe puis des Russes dans ce temps-là, quand on avait des joueurs qui arrivaient de l'Europe, ils n'avaient moins, mais on voyait tout de suite les habiletés individuelles de ces gars-là. Fait que, parce qu'on a appris de ça, puis c'est la grosse différence maintenant.
Tu occupes un poste de directeur des opérations hockey, on le mentionnait tout à l'heure, avec la polyvalente d'Arvida. J'imagine que ce rôle-là, tu le vois avec toi-même et tes entraîneurs qui sont dans le programme. J'imagine que tu aurais aimé ça, avoir ça à ce moment-là.
Oui, c'est des beaux programmes pour les jeunes. Eux autres, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais nous autres, si on pense à l'époque, c'est sûr que ça aurait été une façon justement de travailler un peu plus nos habiletés individuelles. Ils ont la chance d'être sur la glace presque à tous les jours, ce que nous autres, on n'avait pas à ce moment-là. Fait que c'est ce que j'aime amener aussi aux jeunes, là, la chance qu'ils ont, puis d'encadrer ça. Ça me passionne vraiment encore aujourd'hui là, de travailler dans ce domaine-là, être associé au hockey, puis d'avoir une belle gang comme on a au Bleu Art. On forme une belle famille, une belle gang, les entraîneurs, notre organisation. Fait que je suis très, très content, très choyé de faire ça encore aujourd'hui.
C'est un poste important au hockey scolaire, justement, avec le Bleu et Or comme directeur des opérations. Moi, c'est drôle, Jean. J'étais certain dans les dernières années, j'ai dit, Jean Hébeau va sûrement avoir à un moment donné une offre pour diriger comme instructeur adjoint ou instructeur une équipe, soit junior majeur, midget ou même dans la Ligue nord-américaine. C'est là où je pensais qu'on allait... En as-tu eu des propositions pour coacher?
Oui, quand j'ai mes dernières années... Mon avant-dernière année, quand j'étais avec les élites, quand j'étais entraîneur-chef avec les élites, là, dans ce temps-là, les voltigeurs de Drummondville, qui était Dominique Ricard, qui était à ce moment-là, qui est rendu au hockey scolaire maintenant, qui était directeur-gérant, là, avait communiqué avec moi, puis il avait insisté pour me rencontrer. À ce moment-là, en plus, c'était Guy Boucher qui est entraîneur-chef, qui m'avait proposé le poste d'adjoint là, avec les voltigeurs. Mais moi, j'avais mon emploi à commission scolaire, j'étais enseignant, je travaillais en éducation physique dans le domaine que je voulais faire. Donc, j'avais une décision importante à ce moment-là. J'ai décidé de pas plonger, dans le fond, puis de rester. Puis aujourd'hui, je ne le regrette pas. C'est sûr que j'aurais peut-être pu vivre des belles expériences, mais aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que je suis encore associé au hockey. Puis en même temps, ben je peux vivre mes deux passions, là, l'enseignement puis le hockey en même temps.
Jean, parle-nous maintenant de ta situation familiale, épouse, conjointe, des enfants. Qu'est-ce que tu fais maintenant spécifiquement, puis où tu habites?
Moi, je demeure à Jonquière encore. Je suis marié depuis 27 ans avec une fille de Jonquière, Cindy Gauthier, que j'ai connue même quand je jouais ici là, avec les Cascades dans le midget 3A. On est toujours ensemble. J'ai deux garçons, un gars de 27 ans là, qui est maintenant ingénieur, puis qui a goalé au hockey, qui est un gardien de but. Là, il a fait... toutes ces années. Puis j'ai un autre garçon, Fabrice, qui a 22 ans, qui lui est encore aux études, puis il veut peut-être suivre un peu mon chemin par rapport à ça. Parce
il vient d'être nommé dans le système.
Il étudie en éducation physique.
Puis il vient d'être nommé dans le système des coaches, là, dans l'hockey.
Avec les espoirs.
Avec les espoirs. Hein.
Avec les espoirs.
Fabrice, c'était quoi son parcours au hockey, lui, Fabrice?
Fabrice a joué son hockey mineur là, dans le double lettre surtout. Il a joué avec les espoirs dans le midget. Il a joué 2 ans midget espoir, un petit peu avec les élites cette année-là. Puis il a joué son junior 2A au complet avec les Marquis Jonquière. Un peu comme mon plus vieux aussi, là, qui a fait un peu le même cheminement, là, qui a fini.
Puis ton plus vieux, il était gardien de but, ton plus vieux?
Oui, mon plus vieux était gardien de but.
Eh bien!
Il a fait aussi le même cheminement, midget espoir, un peu. Il a fait une demi-saison avec les élites. Puis après ça, il a terminé avec son stage dans le junior 2A ici à Jonquière avec les Marquis.
Quelle est la personne dont tu as gardé le meilleur souvenir chez les Saguenayens, Jean?
Ben, si on peut en parler, vous m'avez fait travailler un petit peu aujourd'hui, puis j'ai repensé à une personne là, qui avait peut-être été influent, qui m'avait influencé à ma première année ici. C'était Doris Labonté, qui est entraîneur adjoint avec Gaston. Ce que j'ai bien apprécié. Puis j'ai eu la chance de le côtoyer à Shawinigan dans ma dernière année. Là. Puis parce qu'il était venu terminer une saison avec les Cataractes. Puis Doris s'est arrivé, je pense, au milieu de la saison cette année-là, comme entraîneur adjoint. C'est un gars à qui j'ai apprécié. Puis c'est un gars aussi qui communiquait beaucoup. Là. Fait qu'il faisait vraiment son rôle d'adjoint, je dirais, à merveille. Là. Il communiquait beaucoup avec les jeunes. J'ai gardé un bon souvenir comme homme de hockey là, ici à Chicoutimi.
Jean Imbeau, c'est 58 matchs avec les Saguenayens, 260 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec entre autres Shawinigan et les Lynx de Saint-Jean par la suite. Il a 90 buts, 117 passes pour 207 points en 260 matchs. Dans quelle aréna, à part le Centre Vézina, Jean, connaissais-tu tes meilleurs et tes pires matchs?
Ben, je dirais que à Shawinigan, c'est sûr, quand j'ai joué pour les Cataractes. Puis je connaissais des bons moments aussi quand je venais au Saint George Vézina, quand je jouais pour Shawinigan. C'était probablement l'aréna où je connaissais mes meilleurs moments. Puis la pire aréna que je me rappelle de jouer, c'est sûr que Laval et Hall étaient très difficiles à jouer dans ce temps-là, mais l'aréna que je me rappelle les plus mauvais souvenirs, c'était à Beauport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y avait
l'Arfan
de Beauport. C'était plate à jouer là. C'était
pas.
Ouais, c'était un petit cabane, puis il y avait pas d'ambiance. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'ambiance. Puis nous autres, en tout cas, on connaissait toujours des mauvais matchs à Beauport. Fait que c'est dans mes pires souvenirs. Là, pire arena.
Mais Jean, ça nous surprend un peu, puis tu vas pouvoir nous donner la réponse, parce que la plupart des joueurs qu'on a interviewés, là, on est rendu à plus de centaines de joueurs qui ont passé à nos micros. La pire arena, ça a toujours été l'auditorium municipal de Shawinigan pour eux. Toi, tu y as joué trois saisons avec les Cataractes. Qu'est-ce que
t'aimais
dans cette
arène-là? Ben, on était chez nous. C'est ça que je dis souvent quand on jase avec les anciens avec eux. Quand on jouait pas pour Shawinigan, on détestait ça, mais quand on était chez nous, on aimait ça parce que, justement, elle était intimidante pour les autres équipes. Ça nous donnait un petit avantage. Là. Autant que Laval, eux autres, il y avait cet avantage-là. Je pense que Shawinigan, c'était une vieille arena. Je me rappelle une année, on a joué contre les Saguenayens en série. Même ma grand-mère, qui est encore plus petite comme arena, oh, là, ouais. Ça avait vraiment... l'aréna était pleine, puis c'était vraiment intimidant pour les autres équipes là, dans ce coin-là.
Maintenant, ta saison, ta carrière plutôt de hockey junior s'est terminée. Tu t'es dirigé au hockey universitaire dans les Maritimes où tu es allé jouer pour les Aigles Bleus de Moncton. J'aimerais que tu me parles de ce passage-là avec l'Université de Moncton et de ta fin de carrière de hockeyeur au hockey senior.
Oui, à Moncton, j'ai eu la chance de remporter un championnat canadien avec les Aigles Bleus en 1995. Ça, c'est probablement mon plus beau moment dans ma carrière d'hockeyeur, là, d'avoir gagné un championnat canadien. Puis j'ai eu trois bonnes saisons à Moncton, là, dont trois. Ben, j'ai eu trois saisons, trois fois sur l'équipe d'étoiles de l'Allier. Ça a été un beau passage pour moi, vraiment. Là, je garde vraiment des bons souvenirs. Puis j'ai gardé beaucoup de gens avec qui que je côtoie encore, dont Patrick Bizarion, tantôt, je n'ai parlé avec qui j'ai joué à Moncton. Là, j'ai parlé de lui quand j'étais à Chicoutimi. Puis que je garde des bons souvenirs. Puis j'ai eu la chance de terminer ma carrière. On était chanceux d'avoir... parce que quand je suis arrivé dans la région, au départ, il n'y avait pas d'équipe senior. Puis je me rappelle que Michel et sa gang ont décollé les Condors. On était chanceux. Puis à ce moment-là, d'avoir une équipe ici à Jonquière, ça a été des beaux moments avec qui j'ai vraiment aimé là, terminer ma carrière de hockey. Ça m'a permis de jouer plusieurs saisons. Ben, je pense que c'est 5 ou 6 saisons de plus. Puis on s'en parle encore, je joue dans une ligue adulte maintenant, puis j'ai des joueurs avec qui que je côtoie, qu'on a joué ensemble senior, puis on se relate des beaux souvenirs dans ces années-là. J'ai vraiment aimé le fait que je dirais que c'est de, il y a une année que j'ai gagné le joueur gentilhomme. C'est un beau souvenir que je garde de cette époque-là. Puis surtout la gang de gars avec qui j'ai côtoyé, là, on a vraiment créé des beaux liens. Dans ces années seniors-là, ici à Jonquière.
Le hockey senior et les Condors, ça n'a pas été évident au début parce que ça jouait dur, puis il y avait des hommes forts. Mais j'avais passé quand même au travers, Jean. Puis comme tu dis, il y avait une belle gang de gars. Les supporters, puis on le voit encore avec les marqués aujourd'hui, là, et c'est les meilleures instances de la Ligue. Il y avait vraiment de la place pour ce hockey-là, ici au Saguenay. Là.
Oui, on en parle souvent, comme je disais. J'ai la chance de travailler avec François Bouliane ici à Polyvalent d'Arvida, qui était mon coéquipier de l'époque. Puis on en parle souvent. Je joue avec des gars comme Stéphane Potvin, Donald Bugeaud, joue au hockey, puis on parle souvent de ces années-là, on joue ensemble dans une ligue adulte. Puis c'est ce qu'on on se remémore des souvenirs, des combats qui se passaient des fois. Puis c'était drôle parce que des fois, il y en avait plusieurs. Nous autres, les joueurs, les gars qui jouaient, qui n'étaient pas appelés à se battre, des fois, on passait beaucoup de temps à jaser sur le banc pendant les bagarres. Mais il y avait du monde, il y avait vraiment un engouement, puis le monde aimait ça, puis je m'en fais parler régulièrement. Là. Ça, c'est une affaire, je vais toujours me souvenir parce que mon passage avec les Saguenayens avait quand même été moyen, là, on ne se le cachera pas. Fait que c'était ma première année. Mais avec les Condors, là, les gens ont gardé vraiment des beaux souvenirs. Puis ça, je suis vraiment fier de ça. Puis souvent, le monde me reparle de ces années-là. Là,
mais Jean, dans mon travail de recherche que je faisais aujourd'hui, justement, pour préparer l'entrevue, tu n'as pas vraiment à être inquiet de ta saison avec les Saguenay parce que je vérifiais. Je pense qu'à part Éric Bernier d'Alma, qui a été un premier choix des Saguenayens, les joueurs de la région qui ont été choisis au premier rang, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ils ont presque tous été échangés ou ils ont quitté pour X raisons. Là, mais je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais c'est ce que je retrouvais là, dans ce que je voyais aujourd'hui là, au fil des repêchages en faisant mon travail de recherche. As-tu une anecdote inoubliable de ton passage avec les Saguenay?
J'ai cherché aujourd'hui aussi, puis l'anecdote que je me rappelle le plus de cette année-là, c'est mon premier match hors concours. C'est une anecdote parce que c'est une anecdote, puis pas parce qu'on avait perdu, je sais pas, on avait perdu 18-0. Je vais toujours me rappeler de ce match-là. Pourquoi on avait perdu 18-0? Parce que les Draveurs de Trois-Rivières, je pense que c'était Danny Dubé qui était entraîneur-chef à l'époque. Il y avait eu une erreur de communication, je ne sais pas trop. Nous autres, on était presque tous des recrues. Puis lui, il est arrivé avec son équipe complète parce que les gars partaient. Il y avait une grosse équipe, eux autres, dans ce temps-là. Puis les gars partaient tous dans les camps professionnels. Puis il avait tout fait jouer ses vétérans. Fait que c'est une anecdote, puis pas, mais je me rappellerai tout le temps ce match-là. Puis en plus, on s'était fait brasser. Fait que des fois, quand que je remémore ma saison, je dis toujours mon premier match en carrière junior majeur n'a pas été le plus beau. Quand tu perds 18-0, puis hey, je me rappelle que Gaston était vraiment pas content de ça. Là,
18-0, puis il avait pas mis la pédale douce, il avait brassé au travers de ça.
Non, il avait vraiment pas mis la pédale douce. C'est pour ça que je me rappelle. Je vais me rappeler de ça toute ma vie. Ça avait quasiment pas de bon sens. Là, puis, il y a sûrement arrivé d'autres petites anecdotes, mais celle-là m'est restée. 18-0, oh
boy. qui est le meilleur joueur avec lequel tu as évolué avec les Saguenay, Jean?
Félix Potvin, sans aucun doute. Là, Félix... était son année 18 ans, c'est son année de repêchage. Puis, je garde des bons souvenirs de Félix parce que c'est un chic type, c'est un gars le fun à côtoyer. J'ai eu la chance, tantôt, je vous ai parlé du championnat canadien. Puis, quand le championnat canadien il se déroulait à Toronto, puis je vais toujours me rappeler que Félix Gaulet pour les Maple Leafs à ce moment-là. Puis, j'étais allé le voir jouer, puis on était allé le voir pratiquer. Puis, j'ai toujours trouvé que Félix avait pas changé comme personne. Je l'ai recôtoyé plus tard aussi, quand je coachais avec les élites de 3A, puis j'ai trouvé que c'était une personne qui était tout le temps restée comme il était, humble, puis à sa place. Puis c'est un gars que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est un gars que j'ai respecté, puis que j'ai aimé aussi. Je suis fier d'avoir joué avec lui, de sa prestance, puis sa personne aussi. Là. Fait que c'est assurément avec les Saguenay le meilleur joueur avec qui j'ai joué.
Tu as joué 50 matchs en 89-90, 8 en 90-91 avant d'être échangé aux Cataractes de Shawinigan. Tu as porté le numéro 67 en 89-90 et le 19 en 90-91. Est-ce qu'il y avait une signification pour toi?
Non, parce que c'était mon numéro que je portais avec les Cascades. Fait que c'était un numéro que j'avais choisi. Il y avait beaucoup de faux numéros, c'était ces années-là. Puis c'est le numéro qu'on m'avait donné. Puis quand j'ai été repêché, là... Les Saguenayens avaient pris le soin de placer mon numéro avec mon nom. Puis, ils m'avaient demandé si je voulais en premier lieu, là, je me rappelle, c'est Gaston Drapeau m'avait demandé si je voulais en premier lieu garder mon numéro 67. Puis, j'avais dit oui, fait que ils m'avaient gardé là. Mais comme vous aviez vu, la deuxième année, j'avais décidé de changer de numéro. Un peu superstition, j'avais dit, je vais essayer de changer un peu mon j'avais pas eu une belle saison, fait que j'ai changé de numéro pour le numéro 19. Puis c'est mon ami à l'époque, Daniel Paradis, là, qui avec qui j'ai fait mon hockey mineur, qui s'était joué avec nous autres, avec les Saguenayens, là, qui avait pris du 67.
En avais-tu d'autres, des superstitions? Ben, les joueurs de hockey, il y en a plusieurs, des superstitions.
Oui.
C'est quoi tes autres superstitions?
C'était genre... Ouais, j'étais le genre de gars à m'habiller tout le temps de la même façon, taper mon bâton de la même façon. Quand ça allait bien, j'essayais de rien changer de ce qui allait bien. J'ai toujours été comme ça, même comme entraîneur aussi. J'ai resté superstitieux, là. Quand j'étais entraîneur, des fois, j'en parle avec mes entraîneurs. Je n'ai justement parlé en fin de semaine parce que le Bleu et Or ont remporté deux championnats. Là. Puis je parlais avec mes entraîneurs. J'ai dit, là, je ne vous ai pas parlé de ça parce que je ne voulais pas, dans mes superstitions, je ne parle pas de ça avant un match. Puis tout ça, fait que là, on riait de ça, mais j'ai toujours resté superstitieux.
On va revenir sur le repêchage de 1989 où les Saguenayens ont choisi au troisième rang au total après avoir connu une excellente saison de 30 buts et 42 passes pour 72 points et le huitième rang des compteurs de la Ligue Midget 3A dans l'uniforme des Cascades du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parle-nous des sentiments qui t'ont habité comme Saguenayen d'origine d'être la première sélection de l'équipe locale.
C'est certain que j'étais content d'être repêché aussitôt. Je pourrais vous dire, puis d'être repêché par les Saguenayens, qui étaient mon équipe d'enfance, que j'ai toujours suivais ça en plus. Mon père est un amateur de hockey, puis il nous amenait, mon frère et moi, beaucoup voir les Saguenayens. J'ai toujours suivi, c'est sûr que c'était une grande fierté. Je me rendais pas compte, peut-être à l'époque, que de l'impact que ça allait avoir. Ça me suit encore, parce que il y a des jeunes à l'école, puis il y a des jeunes dans notre programme de hockey qui... Ils vont souvent voir qu'est-ce qui s'est passé dans les Juniors majeurs du Québec, puis ils me parlent encore de ça. Je ne m'en rendais pas compte à l'école à ce moment-là, que, surtout d'avoir été choisi en première ronde, là, puis troisième au total, que c'était quelque chose, c'était quand même un bon fait, un bel accomplissement. À ce moment-là, je n'ai pas l'impression que je m'en rendais compte tant que ça, mais aujourd'hui, je m'en rends compte. Puis je suis quand même fier, d'avoir passé par les Cascades, puis fier d'avoir été repêché aussi par les Saguenayens, même si ça n'a pas été comme je voulais, mais au moins j'ai eu la chance de me reprendre là, les années suivantes. Fait que je garde un bon souvenir de mes années juniors.
Tu n'as malheureusement pas eu la chance d'être repêché dans la Ligue nationale de hockey. Tu occupes un poste important au sein d'un programme de hockey aujourd'hui. Et cette question-là s'adresse à toi, mais c'est pour nos jeunes auditeurs qui écoutent et qui cherchent toujours à avoir des tuyaux un peu pour s'améliorer. Tu aurais certainement aimé faire carrière dans la Ligue nationale de hockey. À quel endroit? Puis avec du recul, qu'est-ce que tu crois que tu aurais pu faire de différent pour y arriver?
Tantôt, j'ai parlé de Félix Potvin, puis je suis encore un gars qui... J'ai toujours été un partisan du Canadien, mais j'ai toujours aimé Maple Leafs de Toronto. Fait que je pense que j'aurais aimé ça jouer à Toronto, même si c'était un marché pas facile, que les gens sont très exigeants. J'aimais beaucoup les équipes originales, Toronto, Boston, Chicago, ces équipes-là. Mais qu'est-ce qui aurait fait de différent? Beaucoup de choses. Si on avait su à l'époque qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, surtout que je suis demeuré dans le domaine, je peux vous dire que je changerais beaucoup de choses. Je pense que la première chose, c'est surtout la préparation. Préparation physique et mentale, là, dans ce temps-là, on m'a peut-être pas assez de temps là-dedans. J'étais un gars, je pense, qui manquait peut-être un peu de confiance en moi. Je dirais aux jeunes de toujours croire en eux autres. Puis je le dis souvent à des jeunes, des fois, je remémore des choses que j'ai vécues à des jeunes pour les aider. Puis d'avoir confiance, puis de se faire confiance surtout. Je pense que la préparation mentale à ce moment-là n'existait peut-être pas assez. La préparation physique aussi, en dehors du hockey, même si on s'entraînait beaucoup, je pense qu'on s'entraînait peut-être trop pour prendre du poids, pour être gros sur la glace, quand on sait très bien que la chose la plus importante, j'ai découvert ça peut-être un peu trop tard, c'était la vitesse, c'était le plus important. Fait que travailler pour augmenter toujours ta vitesse, là, je pense que c'est des choses que j'aimerais, puisque je sais qu'est-ce qui me manquait peut-être pour monter plus haut, là, plus de vitesse.
Quels sont les lieux que tu fréquentais dans tes moments libres à Chicoutimi et habitais-tu chez tes parents ou en pension?
J'ai fait les deux. La première année, j'ai habité toute l'année chez mes parents. Comme je vous ai dit tantôt, j'avais ma blonde de l'époque aussi qui est toujours mon épouse maintenant, là, qui demeure à Jonquière. Fait que je passais beaucoup de temps. On passait beaucoup de temps ensemble. Puis j'allais au cégep de Chicoutimi. Je me rappelle que je passais beaucoup de temps à l'école parce que vu que je demeurais chez mes parents, je ne redescendais pas chez nous souvent sur l'heure du dîner. Puis entre les entraînements, je passais du temps au cégep. Je me rappelle que j'allais à l'école avec Danny Girard dans ce temps-là, qui était mon coéquipier avec les Cascades, avec qui je m'entendais bien. Puis on passait beaucoup de temps ensemble. Fait que c'est ce qui était le plus gros de mes activités.
Dans tes souvenirs, quelle est la chose la plus étrange que tu as vécue à Chicoutimi avec les Saguenayens?
Je dirais, là, Je ne sais pas si c'est quelque chose d'étrange, mais moi, cette année-là, je regardais tantôt justement l'alignement de cette saison-là pour me remémorer des choses. J'ai fait mes petites recherches, moi aussi, puis c'est le nombre d'échanges qu'il y a eu. J'ai vraiment trouvé que dans cette saison-là, il y a eu vraiment beaucoup de joueurs qui ont passé, puis je voyais des noms que je ne me souvenais presque pas qui avaient joué avec nous autres cette saison-là. Fait que j'avais trouvé ça étrange, puis je trouvais que c'était... dans les années, que les recrues qu'on avait eues cette année-là, il y en avait beaucoup qui avaient fait l'équipe, mais ils étaient presque tous disparus. Pendant la saison, il y avait eu beaucoup d'échanges. On était resté 3 recrues, là. Moi, quatre recrues. Moi, Patrick Bizarion, Paul Brousseau, puis il y a eu Mongeon avec qui j'ai eu la chance de jouer à Shawinigan par après. Mais il y avait, parce qu'au début de la saison, je pense qu'il y avait 12 recrues qui avaient fait l'équipe. Il y avait eu vraiment des bons jeunes là. Cette année-là. Il avait fait un beau repêchage parce qu'il y a des choix là. Suivant, c'est tous des joueurs qui ont fait une belle carrière junior.
Jean, je veux te remercier. Moi, je te connais depuis que tu étais jeune. Je te voyais même durant la période estivale avec ton père. Je voyais tous les efforts que tu mettais dans tes projets. Si tu n'avais pas joué au hockey, quel autre sport aurais-tu aimé pratiquer de façon professionnelle?
J'étais un bon joueur de baseball aussi. J'ai eu une année, fallait faire le choix à un moment donné, surtout quand j'ai commencé à jouer au milieu de 3, parce que ça prenait beaucoup de temps de faire baseball et hockey. Donc, je pense que j'aurais aimé faire une carrière de baseball. Par contre, en vieillissant, je jouais le golf aussi. Je jouais un peu plus au golf. Fait que c'est deux sports que j'aurais aimé pratiquer au niveau professionnel, là. Baseball et golf.
Jean Hébeau, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance dans ton programme scolaire avec le bleu et or d'Arvida.
Merci beaucoup, messieurs.
Yves Bolduc, merci, Jean. Qui sera notre invité la semaine prochaine? Est-ce qu'on a déjà ciblé quelqu'un?
Oui, on a une idée en espérant qu'il ne prenne pas le mauvais avion, lui non plus. On a parlé de son père durant l'entrevue. Alors, ce sera Xavier Potvin qui a disputé 2 saisons avec les Saguenayens, qui a eu quand même des bonnes statistiques, 3,61 et 2,82 en 2016-2017. Donc, Xavier Potvin, le fils de Félix, j'aimerais pas ça qu'on dise ça là, mais on le dira pas là.
Mais Félix a tellement pris de place, il a tellement été bon que les Saguenayens du Coutimi qu'on oublie le fils des fois, là, qui était bon aussi.
Il était bon aussi.
Mais tu sais, ton père.
Il était très bon, gars.
Mais on revient tout le temps à Félix Potvin, qui a été l'un des grands gardiens de but de l'histoire des Sax. Merci, Yves Bolduc.
Merci.
Ce soir, 1, 2, 3, 4 parties Ligue nationale de hockey. On fait le tour, Dom?
Oui, oui, effectivement. Les matchs numéro 2 dans l'Est entre les Leafs et les Bruins. Les Bruins qui mènent 1-0. Même chose du côté des Islanders et des Hurricanes. La Caroline qui mène 1-0. Et on débute les séries pour les Stars de Dallas contre les Golden Knights de Vegas. Puis, Mark Stone est en uniforme.
Ben oui, Mark Stone est
là. Il est en santé. Après avoir
raté... Hey, on défonce le plafond.
Pas grave. C'est Vegas.
Ben, Tampa Bay, il l'a fait.
Stone qui a passé les 26 derniers matchs sur le carreau en raison d'une déchirure de la rate, puis du jour au lendemain, c'est réparé, on est prêt à revenir. Et les Kings de Los Angeles contre les Oilers d'Edmonton, c'est en soirée à 22h.
Baseball, les Jays, c'est une nouvelle équipe?
Oui, contre les Royals de Kansas City, une série de 4 rencontres, et c'est Yusei Kikuchi qui obtiendra le départ pour le premier match.
Puis demain, c'est le bilan de saison des Saguenay-Chicoutimi. Demain matin, on aura les détails avec Yannick Jean demain. Dans l'émission, Yves Bolduc, Max Bradet sera avec nous, de même que Claude Lucier. Passez une bonne soirée, mesdames, messieurs, et à demain.
Arrêt de jeu. Retour dans le vestiaire dans quelques minutes.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
T'as besoin de plus d'espace, de puissance et de capacité de chargement? L'étoile Dodge Chrysler de Jonquière t'offre 20% de rabais sur le PDSF du Ram 1500 Classique 2023. Je le répète, on enlève 20%. Ce sont des conditions à l'achat jamais vues dans les 3 dernières années. C'est l'occasion parfaite pour passer au Ram 1500 classique. L'étoile Dodge Chrysler.